Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifranceuniversite.fr.
Les conquérants, une histoire humaine de croissance externe. Épisode 1, la préparation.
Je m'appelle Fabrice Pro, j'ai 47 ans, je suis papa de 3 enfants et je suis dirigeant d'un groupe nommé HEF. Entreprise à capital majoritairement détenue par ses salariés.
Je m'appelle Xavier Neys, j'ai 40 ans, j'ai 2 petites filles de 4 ans et 2 ans et j'habite Biarritz. Le groupe Neys est un groupe familial composé de 2 associés, mon frère et moi. Nous sommes la 3e génération.
Donc HEF, c'est avant tout des hommes, 3000 personnes. Un groupe né en 1953 de la recherche. Donc basé sur le credo que la science peut arriver au service de l'industrie et qui s'est bâti d'un labo vers un déploiement mondial d'innovation.
Le groupe Neys est composé de 750 équivalents temps plein en personnel et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Mes domaines d'expertise sont la maîtrise des usures et des frottements, qu'on appelle la tribologie, et l'interaction lumière-matière, qui s'appelle la photonique.
Mon domaine d'expertise, c'est les travaux de réseau. On travaille pour les concessionnaires de réseau, donc Enedis, RTE, GRDF, les concessionnaires de téléphonie également, pour SNCF, tous les concessionnaires de réseau.
La société est organisée avec une gouvernance assez classique de CODIR et de conseil d'administration. Nous avons fait beaucoup de croissance externe, essentiellement pour étendre notre empreinte internationale. Donc une quarantaine de croissances externes sur la quinzaine d'années qui vient de s'écouler.
Le capital social du groupe Neys est constitué à 50-50 avec mon frère. On co-dirige tous les deux le groupe. Nous n'avons pas de structure de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons fait 5 croissances externes sur des territoires, des géographies et des métiers différents ou complémentaires.
Alors, je suis Stéphanie Fraché, j'ai 44 ans. Je suis la maman de 2 enfants de 7 et 5 ans. Et je suis directrice chez BPI France Investissement. Donc BPI France, c'est ce fonds souverain à la française qui accompagne des ETI et des grands groupes dans leur développement, dans leurs projets de croissance, quels qu'ils soient, pour lesquels on apporte soit de l'argent en dette, soit de l'argent en capital. Et moi, je suis sur cette partie capital.
Bonjour, je suis Pierre, fondateur de Toutac et animateur de podcast. Et je jouerai le sparring partner de nos 3 invités. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 1, nous allons parler de la préparation d'une opération de rachat. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors, avant même de rentrer dans le détail, j'aimerais que vous me racontiez un souvenir, un moment particulièrement fort que vous avez en tête de votre expérience sur toute cette période de préparation.
Alors, je peux prendre la parole.
Ouais.
Moi, j'ai ce souvenir...
C'est Fabrice qui parle.
C'est Fabrice qui parle, voilà. J'ai ce souvenir de travailler avec une boîte de consultants parisiens qui a depuis disparu, avec des gens qui étaient très vieille école. Le gars, c'était un polytechnicien qui avait monté sa boutique et avec qui je menais ma toute première opération de croissance externe sur les US et qui m'avait fait le briefing. Et qui m'avait en fait montré à quel point cet exercice de croissance externe, moi j'ai surnommé les bulldogs.
D'accord.
C'est-à-dire, quand ils avaient trouvé un os, ils ne le lâchaient plus.
Ouais.
Et oui, ça m'avait marqué en termes de ténacité et puis de patience dans l'approche des cibles. Ça, c'était un truc qui m'avait paru vraiment une marque de fabrique de cette boutique de M&A.
Ne rien lâcher.
Ne rien lâcher, toujours avancer.
Et toi, Xavier ?
Moi, j'ai un souvenir agréable, une opération qui ne s'est pas réalisée avec un intermédiaire, justement.
Ouais.
Ce sont les cédants qui nous ont approchés et qui nous ont dit votre groupe nous plaît, votre manière de travailler nous plaît et on aimerait bien que vous nous rachetiez. Donc, c'est assez...
C'est parti comme ça.
Ouais, c'est parti comme ça.
Pourquoi vous vous êtes lancés l'un et l'autre dans de la croissance externe ? Puisqu'on est en préparation, à un moment donné, il y a une réflexion au départ. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ?
Alors nous, pour notre part, avec mon frère, parce que je travaille avec mon frère,
ouais.
Et c'est des décisions qu'on prend conjointement, évidemment. On a eu une longue période avec notre père, puisque avant d'être tous les deux, on travaillait avec notre père, qui a toujours une stratégie de croissance organique. Il faisait grossir la boîte existante avec des créations d'agences, des créations de centres de travaux. Et avec Olivier, on était un peu fatigués de cet exercice qui est finalement, à ce jour, peut-être que le jour où j'aurai une croissance externe malheureuse, je reviendrai sur ce jugement-là. Mais on trouvait l'exercice de la croissance organique plus fastidieux, plus dur, plus... parfois plus cher. Donc on s'est dirigé vers de la croissance externe où on s'est dit que finalement, acheter, surtout dans notre secteur d'activité, racheter des entreprises qui existaient. Quand vous rachetez une entreprise qui existe, vous venez pas perturber un environnement économique auprès du client, auprès des concurrents. Voilà, vous prenez une place qui existe déjà. Pour notre part, on trouve l'exercice plus facile.
Ok. Toi, ton contexte est très différent, puisque quasiment l'histoire de la société, c'est une histoire liée à la croissance externe.
Oui, en tout cas, la société existe depuis 70 ans maintenant, et c'est vrai qu'à partir des années 80, il y a eu une forte accélération de la croissance de la société liée à des opérations de croissance externe, dont une majeure en 2000 où on a racheté notre plus gros concurrent.
Ouais.
Et ça peut être une motivation, effectivement, de dire comment on passe sur un marché d'un statut d'acteur à un statut d'acteur incontournable.
D'accord.
Là, voilà, on est vraiment dans l'exemple typique, racheter une boîte qui faisait notre taille, boîte allemande, mondialisée, quand nous, on était beaucoup moins visibles. C'était le petit qui rachetait le gros en termes de renommée, de réputation. Et donc, voilà, passer de ce statut d'acteur à ce statut de... finalement, c'est eux qui font le marché. Sur un pan de l'activité, en tout cas.
Et cette réflexion, elle est devenue évidente à un moment T, parce que vous constatiez que vous étiez au taquet. C'était, ça s'est fait très vite, ou c'était le produit d'une longue maturation?
Alors, ça, j'aurais des difficultés à en témoigner, parce que c'était une croissance externe qui a eu lieu avant que moi je sois au rennes de l'entreprise, mais qui a marqué l'histoire de l'entreprise.
D'accord.
Et de fait, cette croissance externe, elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc il y a eu des moments où les gens se sont parlé, puis ils n'ont pas trouvé d'accord, et puis ils sont revenus. Et là où je pense qu'il y a eu un déclic, d'après les récits qui ont cours dans l'entreprise, c'est que cette boîte qu'on imaginait immuable au sein d'un gros concern allemand a été vendue par les Allemands à des Américains.
D'accord.
Et là on s'est dit, mais donc finalement c'était possible que ça se vende.
Ouais.
À ce moment-là, il y a eu une espèce d'entendement collectif pour se dire, finalement, si ça a été vendu une fois, ça pourrait être vendu une deuxième fois. Donc, il faut qu'on soit en veille.
D'accord.
Et effectivement, aux États-Unis, comme nous avait dit à l'époque, et là aussi, ça fait partie des mythes d'entreprise, ça se raconte dans les couloirs, le gars qui vendait, l'Américain, écoutez, rien n'est à vendre, mais tout est vendable. D'accord. C'est juste une question de prix. C'était vraiment l'attitude des Américains à cette époque-là. Donc, c'est effectivement devenu quelque chose qui est rentré dans le champ des possibles. Et ça a commencé à travailler les équipes. Et ça a été présenté comme l'Everest, quoi.
Ouais.
L'Everest qu'il fallait qu'on accomplisse au sein de l'entreprise. Ouais.
Et alors, finalement, et peut-être plus pour toi, Xavier, comment tu sources des entreprises? Comment tu fais? Parce que, ça tombe du ciel ou... Tu as un process qui te permet de voir comment tu vas sourcer des entreprises à racheter.
Au départ, j'avais peu de dossiers qui m'arrivaient. Ceux qui m'arrivaient, ils arrivaient principalement par l'intermédiaire de banquiers.
Ouais.
Au fur et à mesure que vous faites des croissances externes, finalement, vous êtes identifié comme une entreprise acquisitive.
Ouais.
Et de ce fait, les intermédiaires, ce petit microcosme du M&A vous référence quelque part et vous adresse des dossiers. Moi, aujourd'hui, ça vient tout seul.
D'accord.
Ça vient tout seul par des banquiers, des professionnels du M&A, des banques d'affaires.
C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une action de faire savoir que tu es sur le marché.
Complètement. Ouais, il faut faire savoir que vous êtes à l'achat.
D'accord. Et ça vient. Et alors, de ton côté, est-ce que tu as mis en place quelque chose qui te permet, je crois que tu en es à une quarantaine de rachats dans l'histoire de la société?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors, moi, je suis aussi de l'avis de Xavier, à savoir que faire savoir est important, et faire savoir auprès des acteurs, effectivement, du M&A, donc les consultants M&A, les banques d'affaires, etc. Mais dans notre expérience, et ça c'est sûrement lié au fait qu'on rachète beaucoup de petites entreprises.
C'est-à-dire de quelle taille à peu près ?
Bah, des boîtes qui peuvent faire entre 1 et 5 millions d'euros.
Ok.
Ces entreprises-là n'intéressent pas tellement les banques d'affaires et les boîtes de M&A.
Oui.
Parce que c'est des petits dossiers sur lesquels ils ont beaucoup plus de mal à justifier leurs honoraires. Donc là, c'est un autre mode de sourcing. Et nous, finalement, on a intégré cette fonction sourcing dans nos équipes. Par exemple, la personne qui travaillait pour ce consultant parisien que j'évoquais tout à l'heure, qui était basé aux États-Unis, donc un gars centralien implanté à New York depuis ses jeunes années et passionné d'industrie, qui s'était fait pour mission d'aider les industriels français à arriver aux États-Unis, finalement, aujourd'hui, on l'a embauché.
D'accord. Donc, tu as une structure de M&A interne, quelque
voilà.
part.
Voilà. Donc, on a un gars qui, en permanence, source. Ça, c'est pour les États-Unis. Et puis, dans d'autres pays, on s'appuie sur des partenaires, mais qui deviennent un peu historiques, qui nous suivent depuis 5 ans, 10 ans. Petit à petit, ils font partie de l'équipe.
Est-ce que, pour vous lancer dans ces moments de rachat, vous avez des critères ? Est-ce que vous vous êtes dit, OK, ça doit rentrer dans tel et tel et tel élément ?
De notre côté, c'est implicite, on ne l'a pas formalisé, mais avec Olivier, on est assez d'accord pour acheter des sociétés qui ont une certaine typologie. Déjà, on cherche des sociétés qui sont en bonne santé.
D'accord. Donc, pas de rachat
non.
à la barre du tribunal.
Non, okay. non. La cible pour nous de rêve, entre guillemets, c'est un dirigeant qui part à la retraite, par exemple.
Ouais. Okay.
Qui a pas de succession au sein de sa famille, une entreprise familiale qui va se céder. Voilà, on sait déjà que une entreprise familiale ou avec un actionnaire personne physique, on tombera pas dans des écueils de fonds d'investissement qui ont acheté 3 ans avant, qui ont habillé la mariée, qui vont vouloir optimiser, revendre. Voilà, donc ça fait partie des critères. On reste ouvert. C'est pour ça que je t'indique qu'on l'a pas formalisé. C'est un peu implicite avec Olivier, mais on recherche du sens aussi au sein de nos activités. Soit de la complémentarité des métiers qu'on ne fait pas mais qui sont proches des nôtres, soit des synergies avec les mêmes métiers sur des géographies différentes.
D'accord.
Il faut que ça ait du sens.
Ouais.
Si c'est une boîte qui n'a rien à voir avec notre secteur d'activité, ça peut m'arriver d'en regarder, mais ça voudrait dire qu'on va acheter une boîte finalement uniquement parce qu'elle nous séduit ou parce qu'elle est rentable.
Ouais.
Puis, finalement, ça aurait moins de sens. C'est une typologie d'acquisition qu'on n'a pas faite encore.
D'accord. Et toi, Fabrice ?
J'ai le même critère que Xavier sur le plan de la rentabilité.
Ouais.
On achète des boîtes qui tournent.
D'accord.
Ça, c'est vraiment important pour nous. Deuxièmement, par la croissance externe, souvent, on acquiert des forces vives. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment si les gens qui portent l'entreprise sont là pour rester, s'ils ont encore un avenir devant eux, et si on va pouvoir s'appuyer sur eux pour faire grossir l'entreprise. Troisièmement, on regarde qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que si on se rend compte qu'on va dans un mariage où finalement on ne va pas amener un plus à l'entreprise, on hésite. En fait, on se dit, mais finalement, sur quoi on va bâtir la relation ? Donc, en fait, pour nous, il faut qu'il y ait un terreau fertile pour bâtir une relation productive qui soit génératrice de valeur. Et puis, peut-être le quatrième élément, mais ça, je pense que ça tombe sous le sens, il faut que ce soit cœur de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que cette croissance externe elle soit impulsée par une réflexion stratégique.
Mmh.
Eh ben, si la diversification est une
stratégie, oui.
Alors oui, mais se disperser, non.
Et à ce stade de la réflexion, on en parlera plus dans le deuxième podcast, mais vous avez une gouvernance ou pas ? Vous êtes dans des structures très différentes l'un et l'autre. À quel moment dans cette réflexion vous impliquez 10 personnes ? Comment se fait, si tu veux, le moment de cette réflexion sur les cibles ? Et avec qui vous le faites ?
Alors nous, c'est sur l'aspect stratégique, intérêt de la cible, c'est Olivier et moi essentiellement qui prenons la décision. Et dans un deuxième temps, on va intégrer notre équipe financière, notre expert comptable, éventuellement des avocats. Et on va intégrer, on va en parler quand même assez vite à nos équipes internes pour s'assurer que l'intérêt ou le sens qu'on a vu avec Olivier, il le perçoive également. parce que après, en phase d'intégration ou en recherche de synergie, c'est quand même important que les équipes adhèrent au projet. Ouais.
Alors nous, on a un schéma de gouvernance par lequel souvent le dirigeant est très impliqué dans les opérations de croissance externe.
D'accord.
Donc le risque, c'est d'être jugé parti, donc d'être biaisé dans son jugement. Donc nous, on a pris le parti d'embaucher quelqu'un qui incarne la fonction.
D'accord.
Pour être un peu en recul, premièrement. Donc,
tu veux dire qui incarne la fonction chez toi ?
Qui incarne la fonction M&A en interne.
En interne,
voilà.
Ok.
Et qui anime finalement l'équipe M&A monde, que ce soit des gens de l'interne ou des gens de l'externe. Donc ça veut dire que moi, ça m'a permis de me mettre un peu en recul et de regarder les dossiers avec un peu de distance.
C'est-à-dire que tu l'as regardé dans un deuxième temps, il fait un premier screen et tu t'y mets après ou tu regardes tout de suite ?
Non, je les laisse vraiment travailler.
Ouais.
Et quand la personne estime qu'il y a un dossier qui mérite d'être regardé,
okay,
je regarde. Ça, c'est une première étape. Et je lui dis, bah, écoute, oui, on ouvre le dossier ou non, on passe notre tour. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape où quand on a suffisamment regardé le dossier, je demande à cette personne de venir le présenter au comité de direction. Et c'est au comité de direction de voir si le jugement que j'ai pu faire initialement, de dire oui, ça peut avoir du sens d'ouvrir ce dossier, ben c'est à eux de confirmer si ça a effectivement du sens et s'ils savent l'inscrire dans une stratégie. En gros, s'ils le sentent bien, comme moi j'ai pu le sentir au départ. Et donc là, il y a une grosse séance d'alignement.
D'accord.
Et on débat, avec quand même pas pour objectif de chercher à se convaincre. On débat dans l'absolu de ce dossier. Puis si à la fin du débat, il y a un alignement qui se crée et que ça fait sens pour tout le monde, dans ce cas-là, on va plus loin dans le dossier. C'est-à-dire qu'on rentre dans une négo de détail, etc.
Ouais.
Et en parallèle, on présente le dossier au conseil d'administration. Donc, entreprise d'actionnariat salarié, le conseil d'administration, c'est une trentaine de salariés qui vont regarder le dossier et qui vont questionner la personne qui porte le dossier.
Et c'est-à-dire que la personne qui porte le dossier, ça va être toi ou ça peut être quelqu'un d'autre ?
Non, je m'arrange pour que ce ne soit plus jamais moi.
D'accord.
Voilà.
Encore une autre personne
pour rester tiers.
D'accord.
Ouais.
Mais est-ce que c'est la personne que tu as prise pour le M&A qui porte le dossier ou ça peut être une autre personne dans la société qui est aux États-Unis ou en Allemagne, je sais pas, qui va être porteur ?
Oui, ça peut être une autre personne qui va agir de concert avec la personne qui fait le M&A mais qui connaît mieux le dossier.
D'accord.
Parce que c'est sur un territoire sur lequel elle agit, parce que il y a un historique de plusieurs années. On a rencontré cette personne il y a 5 ans, on avait commencé à discuter, ça s'est arrêté. En fait, on regarde quelle est la personne la plus enclin à présenter le dossier de la manière la plus complète. Voilà. Donc moi, j'essaie de rester tiers. Ça me paraît vraiment important. Et quand on passe les dossiers en CA, on a toujours une phase d'information,
oui,
pour pas mettre de pression. Pour dire, bah voilà, on n'est pas là pour décider. Et on va demander à nos administrateurs à la fois de questionner, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce dossier ? Où est-ce que vous voyez des trucs qu'il faut éclaircir ? Première chose. Deuxième chose, on leur demande de prendre des notes au cours des présentations, qui quand même souvent sont des présentations denses, hein, d'une heure ou deux.
Oui, vous prenez le temps dans ce sens.
On prend le temps.
Oui, OK.
Voilà. Et on dit, mais qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans le dossier ?
Ouais.
Qu'est-ce qui vous met en résistance ? Et vous notez. Et après, on fait des tours de table pour bien noter tous les angles.
D'accord.
Et une fois qu'on a tout ça, la personne du M&A repart et elle clarifie.
Elle creuse. OK.
Et une fois que tout est creusé, et parfois ça prend 6 mois, 1 an,
ouais,
on en repart.
Je pense à deux choses à ce stade, toujours dans la période de réflexion. C'est la notion du temps et du rythme. Est-ce que il y a un rythme à donner dans cette période-là. Et la deuxième question auquel je pense, c'est la notion de confidentialité. J'ai l'impression que vous êtes plutôt des dirigeants assez transparents, mais pour autant, il y a des moments où il faut gérer aussi cette confidentialité. Donc, sur ces deux points, Xavier, comment tu...
Alors, nous, on réagit assez vite sur les dossiers. Bien que le dernier, on l'a reçu, on l'a mis de côté, puis on y est revenu, puis on a fini par acheter. Mais donc, j'ai un contre-exemple, mais généralement, on est plutôt réactif. Je crois que ce qui commence à transparaître déjà de notre échange avec Fabrice, c'est que Fabrice est dans un environnement beaucoup plus structuré que le nôtre.
Mais c'est la richesse, parce que vous avez deux cultures différentes, et je trouve ça assez passionnant.
Alors, nous, on n'a pas... On peut recevoir un dossier, il me plaît, je l'envoie à Olivier, une heure après, on en parle... Et le lendemain, j'appelle l'intermédiaire, je leur dis oui, j'ai un intérêt, est-ce qu'on peut en savoir plus, est-ce qu'on peut se voir, et finalement, on peut se lancer dans une phase d'acquisition en quelques jours.
Ouais.
Ça, c'est le timing, et je pense que c'est une de nos forces.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Si vous identifiez quelque chose qui vous pousse, vous y allez, quoi.
Et j'ai une anecdote où on s'est retrouvé une boîte parisienne, on s'est retrouvé en face d'un major du BTP qui était également intéressé, et on a été plus réactif, plus vite, on est tombé en phase estivale, on est tombé pendant l'été où il fallait prendre des décisions, dans les grands groupes il n'y avait pas la bonne personne au bon moment pour faire le go ou no go ou organiser la bonne réunion avec le CA ou quoi, et du coup le dirigeant qui partait à la retraite a voulu avancer, lui il s'était fixé un calendrier dans sa tête et du coup il nous a choisi nous et probablement à un prix inférieur.
Parce que vous avez donné du rythme.
Oui. Par ailleurs, notamment quand c'est des banques d'affaires qui veulent vous inscrire dans un process où vous êtes avec des fonds d'investissement qui sont potentiellement intéressés ou d'autres industriels, j'ai du mal à me plier à un calendrier. Mais là, à la limite, c'est plus humain, ça m'énerve. Qu'on me demande, je dois recevoir tel OI à telle date, tel document à telle date. Tu comprends que c'est aussi lié à notre organisation à nous, où finalement, on est plus dans l'informel, au feeling.
Et tu as répondu aux deux questions, parce que les deux questions, c'était le rythme et la confidentialité.
Oui, voilà.
Donc, en fait, ça tombait bien. Mais j'en profite parce que tu es là-dessus et que c'est particulier. Vous êtes deux, mais d'autres entrepreneurs, vous êtes deux frères. Sans rentrer dans vos histoires intimes, comment ça se joue, le dialogue entre deux frères qui reprennent une histoire, c'est ton grand-père qui a créé la société. Comment ça se joue les moments de préparation c'est du jeu de jambes permanent, il y a quelque chose de particulier à co-diriger une entreprise.
Je vais être tout à fait honnête, c'est pas tous les jours facile de co-diriger un groupe avec son frère.
Ouais.
Cependant, on s'entend plutôt bien. Même très bien. On arrive toujours un peu dans ce que décrivait Fabrice, où ils essaient de trouver un alignement d'intérêts ou une position commune. Avec Olivier, on fait le nécessaire pour trouver une position commune.
Ouais.
C'est arrivé que j'ai de l'intérêt pour un dossier et que lui n'en ait pas, et inversement.
D'accord.
Mais dans ces cas-là, on va plutôt ne pas faire.
D'accord.
Que faire.
Okay.
On va pas forcer l'un ou l'autre à prendre une décision qui ne lui conviendrait pas.
Fabrice, rythme et confidentialité, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur cette période de démarrage, de réflexion ?
Je considère que l'exercice de croissance externe, c'est sans arrêt jongler entre les temps courts et les temps longs.
Ouais.
Donc les temps courts, effectivement, un dossier se présente, la manifestation d'intérêt... On est dans les temps courts. Il faut être hyper agile, réactif, décidé. Et décidé de dire aux vendeurs...
On creuse ou on creuse pas.
Écoutez, nous, quand on y est intensément ou on n'y est pas. Et ça, en général, ça paye. Hein. C'est ce que dit Xavier, parce qu'un vendeur, pour lui aussi, c'est une phase d'investissement fort. Et si ça doit se passer, il sait qu'il a besoin en face de lui de gens qui s'investissent. Et puis, les temps longs, c'est les temps qui vont nous permettre de digérer les informations, de créer de l'alignement et de voir si finalement ça fait sens. Hein, je rebondis sur ce que disait Xavier, est-ce que ça fait sens ? Et ça, dans des organisations un peu élargies, ça prend du temps. Et il faut que ça mature, il faut laisser les cerveaux digérer. Le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe du M&A, qui creuse du point de vue du vendeur, y a de l'action. Il se passe tout le temps quelque chose, donc lui, il est nourri.
Mmh.
Et nous, ça nous laisse les temps longs pour digérer, alimenter les discussions. Et la personne qui gère le truc, elle envoie des informations au fil de l'eau qu'on absorbe. Et on construit peu à peu une représentation commune. Donc pour moi, c'est temps court, temps long. Il faut savoir allier les deux. Et ce que dit Xavier, c'est très significatif de ça. C'est-à-dire que quand l'alignement ne se fait pas, même au bout de quelques semaines, on en reparle, on voit que... La représentation qui se construit, elle présente plus d'inconvénients que d'avantages. Ben non, c'est qu'il faut passer son tour, quoi.
Mais est-ce que ça veut dire que tu vas le laisser tiède et tu continues à observer, ou une fois que vous avez dit bah non, on n'y va pas et c'est fini, est-ce que tu te donnes une deuxième chance, une troisième chance sur un même dossier?
Alors, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de garder avec le vendeur de très bonnes relations. L'expérience nous a montré que un deal qui se faisait pas à un instant T se faisait très souvent, 5 ans, 10 ans plus tard, et que tout ce qu'on avait bâti en termes de confiance sur la première rencontre, c'était une hyper-capitalisation pour la suite. Et que même souvent, les meilleurs dossiers, c'est ceux qui ne se faisaient pas du premier coup. Parce que les planètes n'étaient pas complètement alignées et il fallait se donner du temps. Et ça, c'est un deuxième élément du temps long. Savoir attendre 3, 4, 5 ans pour que finalement tout le monde soit dans une démarche où on s'est compris et où on a fait évoluer les choses pour que ça fitte.
Avant de retrouver Stéphanie Frachet, la BPI, merci Fabrice, merci Xavier.
Merci.
Merci.
Et on se retrouve pour le podcast numéro 2 sur la négociation. Écoutons maintenant le point de vue de Stéphanie Frachet, celui d'une membre de conseil d'administration d'ETI qui accompagne, entre autres, des croissances externes.
Mon rôle dans la préparation de ces dossiers de croissance, c'est d'une part d'être sûr de ce que le management va chercher dans ces opérations, c'est-à-dire challenger le rationnel, le pourquoi on se lance dans cette aventure, parce que faire une croissance externe pour une entreprise et pour un management, c'est quand même très chronophage. Faut pas sous-estimer que ça vient en plus de la gestion quotidienne des affaires. Et parfois, on se rend compte que les managements, ceux en tout cas qui sont peu expérimentés dans ce type d'opération, se lance un peu dans l'aventure, un peu à la légère, quoi, en sous-estimant le temps qu'ils vont y consacrer pour bien faire les choses. Donc, on n'est pas systématiquement là pour soutenir des opérations de croissance externe. Il y a plein de choses à faire entre les quatre murs d'une société déjà en organique. Est-ce qu'on a raison d'ouvrir ce sujet ? Par rapport à ce que j'ai dans mes quatre murs de l'entreprise, qu'est-ce que ça m'apporte en plus ? Est-ce que ça m'apporte une complémentarité dans les produits que je fabrique ? Est-ce que ça m'apporte une complémentarité dans la géographie ? Est-ce que ça m'apporte une addition de ressources importantes que je n'ai pas ? Bon, ce que j'observe dans certaines situations pour des raisons purement financières. C'est pas nécessairement le premier cheval de bataille, mais ça peut être, dans un certain nombre de situations, le premier critère. Dans le comment on va le faire, moi je mets aussi pas mal d'éléments importants de réflexion autour de la tactique de l'opération. C'est-à-dire que c'est peut-être le biais de l'investisseur qui a vu passer plein d'opérations de ce type, mais l'intelligence de situation sur une opération de M&A, la prise en compte de la concurrence, parce qu'en général on n'est pas seul pour acheter, si la cible est jolie, d'autres auront repéré qu'elle était jolie avant nous ou à côté de nous. Et donc c'est très important de se dire dans le comment on va le faire, quels sont moi mes atouts pour gagner cette cible par rapport à d'autres, et comment je vais les jouer, à quel moment je vais les jouer. Il y a une sorte de chorégraphie qui s'ajuste au fil des semaines quand on travaille sur le dossier. J'ai un exemple d'une opération où on s'est opposé à cette croissance externe, à ce projet. Le dirigeant en est le fondateur de cette entreprise, et il a, au cours de son histoire, beaucoup grandi par croissance organique, mais aussi beaucoup par croissance externe. Donc il était déjà assez rompu à l'exercice, et donc assez convaincu. Et là, sur le cas particulier, c'était une opération qui faisait du sens stratégiquement, parce qu'elle venait compléter les activités de l'entreprise en question. En revanche, la cible en question avait une activité qui était très cyclique par rapport à un cycle de matières premières, en l'occurrence. Donc il y avait des périodes de hausse merveilleuses quand on était dedans, il y avait des périodes de baisse assez dangereuses. On a vu finalement le fait que le moment n'était pas le bon, parce qu'on n'était pas dans le bon cycle.
Nous remercions Stéphanie Frachet, Xavier Neys et Fabrice Prost de leur témoignage dans cette saga Les Conquérants.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.